France Inter, il est 19h21.
France Inter. Le 18-20. Claire Servagen.
Au téléphone sonne ce soir, question sur la privatisation d'aéroports de Paris. La loi Pacte, votée au printemps dernier, prévoit en effet que l'État, actuellement majoritaire dans le capital de cette société très rentable, se désengage afin d'alimenter le fonds pour l'innovation. La vente aurait pu passer comme une lettre à la poste. C'était sans compter sur l'opposition de députés et de droite et de gauche qui sont montés au front en déclenchant une procédure inédite, le RIP, le référendum d'initiative partagée, un dispositif prévu par la Constitution depuis la révision de 2008, mais jamais mise en œuvre jusque-là. Il faut dire qu'il est subordonné à un certain nombre de conditions difficiles à réunir. Il faut notamment recueillir la signature d'un dixième du corps électoral, soit 4 700 000 personnes. On en est loin pour l'instant. Pas étonnant, disent les partisans de ce RIP, qui accusent le gouvernement de traîner des pieds en faisant le moins de publicité possible autour de cette initiative, alors qu'il en a fait des tonnes, je cite, sur le grand débat. Alors ce soir, sur France Inter, on va faire le point à la fois sur le référendum d'initiative partagée et sur la privatisation d'Aéroports de Paris elle-même. Argument pour, argument contre. Deux députés à nos côtés pour répondre à toutes vos questions. Le député La République En Marche, Roland Lescure, qui défend cette privatisation. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Je précise que vous êtes président de la Commission des Affaires Économiques
de
l'Assemblée, c'est bien ça. Avec nous également le député socialiste Boris Vallaud, qui lui est opposé à cette privatisation. Bonsoir Boris Vallaud.
Bonsoir.
Et vous faites partie des parlementaires à l'origine de cette demande de référendum. Alors n'hésitez pas tous à nous appeler pour les interroger. Le standard attend vos appels.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et tout de suite un premier appel, celui de Frédéric qui nous appelle de Beson. Bonsoir Frédéric, bienvenue à vous, on vous écoute.
Bonsoir.
C'est à vous Frédéric.
Oui, juste je voulais poser une question qui est simple. C'est la première fois qu'on met en œuvre le référendum d'initiative partagée. On est sur un processus institutionnel qui est totalement neuf, en tout cas dans sa mise en œuvre. Il n'y a aucune information sur les médias, radio, TV, on va dire d'un point de vue officiel, qui permettent d'expliquer pédagogiquement comment ça marche, qui permettent d'expliquer que la procédure est en cours pour recueillir les signatures. C'est quand même assez lunaire comme situation. Voilà.
Merci beaucoup Frédéric pour cette question. Je vais me tourner vers Roland Lescure qui représente ici la majorité. Pourquoi n'y a-t-il pas d'informations officielles sur les médias audiovisuels par rapport à cette procédure qui est prévue par la Constitution, qui est une procédure officielle?
Prévue par la Constitution, le changement de 2008, vous l'avez dit, et peut-être qu'on reviendra sur les conditions un peu particulières.
On y reviendra, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de publicité?
Parce que c'est une démarche partisane qui se respecte totalement, d'un certain nombre de parlementaires qui ont décidé de questionner une loi qui, elle, a été votée par le Parlement. On est aujourd'hui avec un certain nombre de parlementaires qui souhaitent aller chercher des signatures pour soutenir une démarche partisane. Exactement de la même manière que quand un candidat à la présidentielle, par exemple, va chercher des signatures de maire pour soutenir sa candidature, il ne bénéficie pas non plus de campagne officielle.
Quand il y a eu le grand débat, il y a eu des tas d'informations de la part du gouvernement.
Alors là, on n'était pas dans une démarche partisane, on était dans une démarche où le gouvernement, ça peut être interprété comme tel, mais moi j'ai participé à des grands débats, je peux vous dire que tout le monde était autour de la table, et pas seulement les gens de la majorité, loin de là. On était dans un grand débat national avec les Français. Il ne faut pas nier, quand même, que depuis quelques mois, on en parle de ce référendum. D'ailleurs, ce soir, on est sur le service public, on va passer 40 minutes à en débattre.
Enfin, ça, c'est une initiative du service public, c'est pas une initiative du gouvernement.
Mais que je salue, d'ailleurs. C'est très bien qu'on puisse en parler. Mais il n'est pas prévu dans la loi. Il n'y a pas de raison que le gouvernement français, officiellement, dépense de l'argent public pour soutenir une démarche qui est une démarche partisane, que je respecte par ailleurs. Dernier point important, quand même. Cette démarche peut être financée sur la base de donations aux partis politiques qui la soutiennent. Ces donations, vous le savez, sont quand même exemptes d'impôts, et donc c'est 50% en moins pour ceux qui contribuent au financement.
Boris Vallaud, je vois que vous n'êtes pas totalement d'accord.
Non, parce que là on parle d'une démarche partisane. Il s'agit d'abord d'un droit constitutionnel nouveau, d'un droit civique, et que le gouvernement a le devoir démocratique de faire connaître. Vous savez, on parle souvent dans les droits sociaux de non-recours. Il y a des gens qui n'ont pas recours à leurs droits parce qu'ils ne les connaissent pas. Et bien là, c'est un droit constitutionnellement garanti. Ça a été validé par le Conseil constitutionnel qui a été saisi à deux reprises, en réalité. Et le gouvernement dit « la loi ne prévoit rien, donc je ne fais rien ». C'est pas parce que la loi ne prévoit rien qu'il ne peut rien faire. Il pourrait très bien le décider en faisant un autre pari que celui de la méconnaissance des Français à l'endroit de ce dispositif pour faire échec à cette procédure. Vous savez, le président de la République, à l'issue du grand débat qu'évoquait Monsieur Lescure tout à l'heure, a dit finalement le référendum d'initiative partagée, ça peut être une bonne occasion d'un dialogue fructueux entre des représentants élus et des citoyens électeurs. Il a même suggéré d'abaisser à 1 million le seuil de déclenchement. Eh bien, le gouvernement devrait faire de l'information civique sans prendre parti sur le fond. On peut être pour, on peut être contre la privatisation des aéroports de Paris, mais vous savez, quand il y a une élection, il y a des campagnes civiques pour dire « inscrivez-vous sur les listes électorales ». Et on peut avoir une démarche civile, je crois que c'est une exigence constitutionnelle, et on peut pas, comme la majorité, le gouvernement en font le pari, faire le pari du pourrissement et finalement d'une petite attrition du débat démocratique.
Roland Lescure, je vous promets que je vous redonne la parole tout de suite, mais une question quand même, Boris Vallaud. En quoi est-ce que ça vous gêne qu'il n'y ait pas d'informations officielles? C'est parce que du coup, ça ne décolle pas le nombre de signatures,
mais
c'est
que,
ça?
Mais parce que comment voulez-vous que les gens exercent un droit dont ils n'ont pas connaissance, qu'ils en jouissent? C'est la première fois, ça a été dit, que ce référendum d'initiative partagée est déclenché. Je le vois, je vais sur les marchés pour recueillir des signatures. Certains électeurs, certains Français, Françaises, ont entendu parler de la privatisation des aéroports de Paris. Ils n'ont pas tous entendu parler du référendum. Et ils savent encore moins comment s'y prendre. Et je crois qu'il y a un devoir, voilà, sinon il y a une rupture d'égalité républicaine, il y a un devoir du gouvernement de le faire. Ce n'est pas parce que la loi n'y oblige pas qu'il ne peut pas le faire. Qui sortira gagnant, j'allais dire, de la disqualification de ce référendum d'initiative partagée, non pas dans son objet, mais dans son processus.
Roland Lescure, c'est quelque chose qui vous fait peur, ce...
Non, on n'a pas peur. On respecte évidemment le processus. Le président de la République, au sortir du grand débat, il a dit deux choses. Je suis prêt à baisser le seuil effectivement
dans
à 1 million.
Dans la prochaine réforme des institutions,
c'est ça ? À condition aussi que ce référendum ne se retrouve pas en concurrence avec une loi qui est en exercice et qu'en examen au Parlement. Il faut bien retenir une chose sur la réforme de 2008. Les législateurs à l'époque avaient décidé que pendant 1 an suite à la promulgation d'une loi, on ne pouvait pas lancer de référendum. Pourquoi ? Pour éviter qu'il y ait une concurrence entre la démocratie directe et la démocratie indirecte.
En l'occurrence, la loi n'était pas promulguée. Hein.
Alors, exactement, bravo Boris Vallaud.
Et c'est une initiative de 248 parlementaires qui sont élus comme vous.
Vous avez fait un excellent coup politique, bravo, mais vous avez, à la dernière minute d'un match qui durait depuis 8 mois, l'examen au Parlement de cette loi, elle a commencé il y a 1 an, jour pour jour, elle s'est terminée le 11 avril. Le 10 avril, vous avez déposé cette proposition de loi. Du coup, en entrant dans ce petit vide juridique, dont il faut reconnaître que, je pense, c'était une erreur en 2008, on se retrouve avec deux processus démocratiques en concurrence l'un avec l'autre.
N'empêche que c'est validé par le Conseil constitutionnel.
Et on va le faire, c'est très bien. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut réaliser quand même qu'aujourd'hui, vous avez un Parlement qui a voté une loi, et qu'en parallèle, dans les 8 mois qui suivent, on va avoir un processus qui suit son cours. Le gouvernement ne l'a pas caché. Il y a un site internet public, il a respecté la loi, il a évidemment envoyé des circulaires aux maires.
Minimum de la part du gouvernement. On a vu 2 fois de suite le ministre de l'Intérieur, ces services minimum. Alors que moi, je pense que si M. Lescure était si assuré de l'adhésion des Français, il ne soutiendrait. Vous pourriez signer.
Moi, je suis pour le débat, je suis là ce soir. Attendez,
Mireille va vous mettre d'accord. Mireille, elle est au Standard de France Inter et elle a des questions à vous poser, des questions avec pas mal d'appels qui vont d'ailleurs dans le même sens que vous. Mireille, bonsoir.
Oui, bonsoir. D'abord, je voudrais juste, pour commencer, rappeler que quand on a privatisé les autoroutes et qu'on s'est rendu compte qu'on avait vendu les bijoux de famille, eh bien, moi, privatiser l'aéroport de Paris, ça me fait penser à cette histoire stupide de la privation des autoroutes. Je ferme la parenthèse. Simplement, le site pour le référendum, le site pour voter en ligne, est un site qui a dû être inventé par un polytechnicien des années 90. C'est aussi compliqué que le procédé Socrate mis en place par la SNCF il y a 30 ans. C'est aussi compliqué que le système de la SNCF quand on veut prendre un billet puis qu'au dernier moment on vous dit « Ah, mais désolé, il y a une petite incident technique ». On vous demande un nombre invraisemblable de renseignements qui est très désagréable, du genre mon numéro de carte d'identité, quasiment le nom de mes grands-parents, enfin c'est hallucinant. Et puis quand vous êtes arrivé au bout du compte, on vous dit « Ah mais désolé, il y a un petit incident, faut vous remettre en ligne ». J'ai obtenu par une amie un lien qui permet de voter facilement. C'est www.marianne.com. www.mireille.net/société/référendum-aéroport-2-paris- ou peut-être point, je ne sais plus.
Bon, alors là, Mireille...
voter. Ça, ça aide. Hein. Moi, ça fait 3 fois que j'essaye et ça sera la 4e fois et j'espère que ce sera la bonne. Mais on dirait qu'on ne veut pas que ça marche.
Merci, voilà. Merci Mireille pour votre témoignage et je précise qu'effectivement, vous êtes nombreux à témoigner dans ce sens. Roland Lescure, c'est quoi alors ce site où on s'arrache les cheveux?
Peut-être juste réouvrir la parenthèse de Mireille une seconde sur les autoroutes.
On y reviendra tout à l'heure sur les autoroutes. Oui.
La privatisation des autoroutes, elle a été mal faite.
On y reviendra.
On a corrigé ça pour ADP, c'est pas du tout la même histoire. Donc attention aux comparaisons.
On y reviendra.
On en reparlera.
On y reviendra. Le fameux site qui doit recueillir les 4 700 000 signatures. Voilà, c'est ça dont on parle.
On est dans une affaire extrêmement sérieuse. Et effectivement, dans la loi constitutive qui prévoit le RIP, il y a un certain nombre de conditions essentielles. C'est pas une pétition change.org. Vous vous connectez pas sur Google en disant « je m'appelle Albert, je suis pour, je suis contre, je signe la pétition ». C'est extrêmement sérieux parce que derrière, il y a un processus législatif ou référendaire qui peut s'en suivre. Donc c'est vrai, c'est qu'il y a des conditions de sécurité extrêmement importantes. Il faut que vous prouviez, Mireille, que vous êtes électrice. Et donc ça suppose tout un certain nombre de déclarations. Et donc on se retrouve avec un site qui est effectivement un peu plus compliqué que les sites habituels. Je vous engage aussi parce que c'est prévu par la loi et tous les maires ont été informés de ce fait. Vous pouvez aller tout simplement aussi répondre et remplir les papiers à la main à votre mairie. Tout ça est disponible et ça fonctionne bien. Que le site ait eu des bugs au début, ça c'est vrai. Et notamment pour Microsoft, ça marchait pas, ils ont corrigé ces bugs. Maintenant ça fonctionne. C'est une procédure assez lourde. Parce qu'on ne rigole pas avec une procédure législative de ce type, mais c'est une procédure qui maintenant fonctionne.
Boris Vallot.
Je vais dans le sens de Roland Lescure. C'est un processus législatif et donc il y a un certain nombre de sécurités qui doivent être garanties pour pas que les gens votent deux fois, qu'ils soient véritablement électeurs, etc. etc. Mais ça n'empêche pas d'avoir un site internet qui soit accessible. Celui-là, il a été inventé pour le Minitel. Je ne sais pas si c'est un polytechnicien des années 90 qui l'a inventé, mais force est de constater, moi j'ai mis 3 fois à m'inscrire sur ce site. Il y a un certain nombre de bugs qui ont été corrigés, mais le gouvernement, le ministère de l'Intérieur n'a pas fait d'efforts particuliers pour faciliter l'ergonomie de ce site. Il a été plus diligent sur d'autres sujets. On évoquait le grand débat. Il a été plus diligent pour créer un site et en assurer l'animation. Ce que je veux dire à Mireille, c'est qu'elle vérifie bien qu'elle n'ait pas apporté son soutien à une pétition qui, du coup, ne serait pas pris en compte dans le nombre de signatures nécessaires pour déclencher le référendum d'initiative partagée. C'est pour ça qu'il y a un site qui est un site du gouvernement. Et c'est ce site du gouvernement, en dépit de tous ses défauts, qui est le bon. Et puis, par ailleurs, il y a des feuilles CERFA, en effet, que l'on peut se procurer, soit dans la mairie, pas toutes les mairies, parce qu'en réalité, le gouvernement n'avait prévu que les chefs-lieux de canton, en tout cas les communes les plus peuplées de chaque canton. Mais heureusement, des maires ont aussi ouvert leur mairie à leurs électeurs.
Boris Vallot, puisqu'on en a parlé des signatures, à combien en êtes-vous désormais à peu près ?
Écoutez, je crois qu'on doit en être autour de 760 000, mais c'est le Conseil constitutionnel et lui seul qui, après avoir validé les signatures, assure ce décompte, donc on attend la prochaine échéance. Mais
n'empêche que les partisans du référendum espéraient au moins 1 million à l'issue de l'été et vous en êtes
Mais moi,
êtes
je vais vous dire, j'espère 4,7 millions à l'issue des 9 mois qui sont ouverts. Mais il reste 6 mois. J'ai dit les freins qui étaient ceux posés par le gouvernement ou par l'inaction du gouvernement dans le porter à connaissance sur ce droit constitutionnel nouveau. Je le déplore, mais ça n'entame en rien la détermination de celles et ceux élus, syndicalistes, associatifs, simples citoyens qui ont envie de soutenir cette initiative et de donner leur avis.
Vous êtes sûr que vous êtes toujours aussi unis pour demander ce référendum? Je dis ça parce qu'il y avait un grand meeting prévu à Toulouse la semaine prochaine. J'ai cru comprendre que ce meeting était n'allait pas avoir lieu.
C'est simplement une affaire de calendrier. Ce meeting aura lieu dans une configuration qui est celle des signataires. Il y a d'ailleurs, je crois que c'est à Caen le 26. Septembre prochain, là aussi, une réunion publique avec l'ensemble des syndicats, des partis. Donc, oui, bien sûr. Et puis sur les marchés, nous ne sommes pas seuls. de telle ou telle partie à distribuer des tracts, par exemple.
Roland Lescure, et ensuite on part au standard.
Juste une petite remarque quand même, parce que moi j'ai, comme vous d'ailleurs, rencontré les personnels du ministère de l'Intérieur. Je ne peux pas laisser dire qu'ils n'ont pas fait diligence. Ces gens-là ont travaillé d'arrache-pied pour que ça fonctionne. C'est
monsieur,
un processus.
Monsieur Lescure, vous n'étiez pas avec la délégation qui était reçue par le ministre de l'Intérieur.
Non, je n'y étais
pas. Qui a eu l'occasion de faire valoir un certain nombre de remarques. J'ai par ailleurs,
auquel,
et je porterai la connaissance...
le ministre vous a répondu.
Partiellement.
Est-ce que
l'ergonomie a été changée? Non.
J'ai vu la lettre de réponse qui vous a été faite. Mais attention, c'est un
minimum.
Processus nouveau, c'est un processus complexe. Et les gens ont travaillé d'arrache-pied pour que ça fonctionne. Et ça fonctionne.
On va au standard de France Inter. Cette fois, c'est Nicolas qui est en ligne et il nous appelle depuis la Martinique. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir, comment allez-vous?
Écoutez, nous ça va très bien et vous?
Très bien, on a le beau temps.
Écoutez, c'est
nous
parfait.
Aussi.
Nous aussi. On manque même de pluie. Dites-nous tout, Nicolas.
Bien, écoutez, j'écoute votre débat, j'ai votre émission tous les jours. Cette fois-ci, je me pose la question. Enfin, les aéroports de Paris sont une entreprise qui est véritablement bénéficiaire. C'est une poule aux œufs d'or. Alors pourquoi veut-on la tuer? Veut-on la privatiser et offrir cette poule aux œufs d'or au privé?
Merci pour cette question, Nicolas. C'est clair, c'est net, c'est direct. Roland Lescure, pourquoi privatiser Aéroports de Paris? Puis on va peut-être quand même repréciser aussi ce qu'est Aéroports de Paris, ce que comporte cette société.
Et on va aussi préciser, avant de répondre à pourquoi on privatise, ce qu'on privatise et ce qu'on ne privatise pas. Parce qu'il y a eu beaucoup d'intox autour de ça. Ce qu'on privatise, ce sont les activités commerciales d'Aéroports de Paris. Aéroports de Paris, c'est la société qui gère Orly, Roissy, et aussi des aéroports de par le monde, aéroports de Paris, et par exemple, actionnaire minoritaire de l'aéroport d'Istanbul, totalement privé.
C'est une société rentable.
Alors, c'est une société rentable. Il faut faire attention quand même. D'abord, on va l'offrir à personne, c'est-à-dire que cette société sera vendue. Et par ailleurs, la rentabilité d'une société commerciale dépend beaucoup, de son commerce. On a beaucoup parlé, par exemple, des dividendes d'aéroports de Paris. Les dividendes d'aéroports de Paris, c'est à peu près 173 millions en 2018. Ça a baissé 4 fois sur les 10 dernières années. Donc les dividendes de l'aéroport de Paris, comme toutes les entreprises commerciales, il y a des moments où c'est rentable. Pendant la crise financière, ils se sont effondrés. Ce qu'on privatise, important, ce sont les activités commerciales. Des boutiques de luxe, des hôtels, des parkings.
Ça veut dire que vous démantelez la société elle-même?
Non. Ce qu'on fait, c'est qu'on va concéder à un opérateur privé toutes les opérations commerciales d'ADP. On ne privatise évidemment pas la douane, la sécurité, la régulation environnementale, la régulation du trafic aérien, les terrains. Donc il y a eu beaucoup d'intox autour de ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va concéder à un opérateur privé pendant 70 ans ses activités commerciales. Et moi, je considère que c'est plus le rôle de l'État, aujourd'hui, d'être assis sur des dividendes de boutiques de luxe. Je pense que l'État, il doit faire autre chose au XXIe siècle.
Boris Vallot.
C'est ce qu'il y a d'effarant, c'est la caricature, et pour pas dire les contre-vérités qui sont produites dans une forme d'aveuglement idéologique incompréhensible. La question a été posée, et j'y réponds honnêtement. Est-ce que c'est une entreprise profitable? Oui, c'est une entreprise qui, depuis 10 ans, a vu son chiffre d'affaires augmenter de 70%, qui a vu ses bénéfices augmenter de 127%, qui a vu le cours de son action, ces 5 dernières années, augmenter de 160%. L'ensemble des dividendes non seulement Aéroports de Paris, mais aussi de la Française des Jeux et d'Engie, qui, là aussi, sont dans cette même loi privatisée. C'est autour de 800 millions d'euros de dividendes par an. Ça varie, mais c'est à peu près ça. Parfois, ça a été plus, parfois, ça a été moins. Pourquoi? Pour créer un fonds sur l'innovation de 200 à 250 millions d'euros. On nous avait dit, ça va être 10 milliards d'euros pour un fonds sur l'innovation. En réalité, c'est 250 millions d'euros par an, c'est-à-dire 10 millions sur 40 ans. On est en train de commettre la même erreur que sur les autoroutes.
Rien à voir.
Les augmentations de péage, ce sera pour les usagers, et les dividendes, ce sera pour le privé. Et vous savez, c'est pas une entreprise comme les autres. C'est une mauvaise affaire économique, parce que ce que vous oubliez de dire, c'est qu'il va falloir indemniser les actionnaires en début de concession, et qu'il faudra indemniser les actionnaires en fin de concession. Ensuite, aujourd'hui, on emprunte à des taux d'intérêt négatifs. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez une entreprise qui vous rapporte de l'argent, et de l'autre côté, on vous paye pour que vous empruntiez. Et vous, vous vendez la poule aux œufs d'or. Ça n'a aucun sens, aucun gestionnaire ne le ferait, aucun, comme on disait à l'époque, bon père ou bonne mère de famille ne le ferait. Et ce n'est pas une entreprise comme les autres. C'est une entreprise, et ça, c'est dans le contrat de concession, qui est à la tête de près de 7000 hectares de foncier. L'équivalent d'une fois et demie la ville de Bordeaux. qui est au cœur de tous les grands projets d'aménagement de la région Île-de-France. Et la régulation du service public aéroportuaire, elle ne portera pas, par exemple, sur le projet Cœur d'Orly, c'est-à-dire sur un certain nombre d'infrastructures qui permettent de relier le ferroviaire à l'aérien. C'est une perte de contrôle. Et alors, on essaie de nous faire croire qu'on vend la maison du chocolat, qu'on privatise un supermarché. Vous allez faire vos courses, vous, à l'aéroport de Paris ?
Non, mais vous savez que les revenus... Vous n'allez pas faire vos courses à l'aéroport de Paris ? Vous savez que les revenus, 75% des revenus... 75% des revenus de l'aéroport de Paris, ce sont des boutiques, des hôtels, des parkings et le développement international. On parlait d'Istanbul tout à l'heure.
Et 60% du chiffre d'affaires...
Il faut arrêter de parler...
60% du chiffre d'affaires, c'est le trafic aérien. C'est le trafic aérien.
Il faut arrêter de parler de poule aux œufs d'or.
La bonne place...
Aéroport de Paris, c'est l'entreprise qui rapporte le moins à toutes les participations de l'État.
Et donc, il vaut mieux qu'elle rapporte au privé ?
Non,
c'est... Il vaut mieux qu'elle rapporte au privé qu'au budget de l'État ?
Non, mais... Qu'au service public ? Aéroport de Paris, un, on va le vendre. Deux, ils vont continuer à payer des impôts.
Et les dividendes, ils iront bien dans la poche des actionnaires.
Et oui, et ces dividendes-là, que nous n'aurons plus, avec les 10 milliards qu'on obtiendra, que vous le vouliez ou pas, on va les investir dans l'innovation. Je préfère un État qui régule, on renforce la régulation avec la privatisation d'ADP, un État qui protège et un État qui innove. L'État, aujourd'hui, il n'est plus là pour toucher des dividendes.
Ça ne suppose absolument pas. Vous préférez que les gens payent des impôts plutôt qu'ils touchent des dividendes. Vous êtes dans un calcul. Vous allez vous priver de, en l'occurrence, près de 800 millions d'euros de dividendes dans les trois entreprises.
173 millions ADP, on parle d'ADP là.
Oui, mais 185 millions d'euros. Cette année.
Et moins de 82 années auparavant. Ça va, ça vient, les dividendes. Attention, les arbres ne montent pas au ciel.
Vous pouvez renforcer la régulation sans privatiser. Vous pouvez investir dans l'innovation sans privatiser. D'ailleurs, vous savez que ce fonds d'innovation existe déjà. Il a été créé avec des dotations qui sont de Thales et d'EDF. Et on peut donner le bilan fait par la Cour des comptes de l'investissement dans l'innovation de ce fonds ? Rien, zéro.
Est-ce qu'on peut juste poser la question de ce que disent les professionnels du secteur ? Après, on va repartir au standard du téléphone sonne. Moi, j'ai cru comprendre que les professionnels du secteur n'étaient pas forcément favorables à cette opération en raison de ce qu'ils appellent la double caisse. Est-ce qu'on peut juste expliquer ce que c'est que la double caisse, Roland Lescure ?
Oui, alors la double caisse, c'est le fait que dans la comptabilité d'Aéroports de Paris, on sépare les activités commerciales dont je parlais tout à l'heure des activités de trafic aérien, pour éviter ce qu'on appelle des subventions croisées. Quand vous dites que les professionnels du secteur sont contre, moi j'en ai rencontré un certain nombre qui sont pour. Aujourd'hui,
il y a beaucoup qui aimeraient maintenir ce système, parce que du coup là vous allez donner...
Non mais la double caisse, elle existe déjà.
Les commerces et le reste...
On va rien donner, attention là, faut utiliser des mots qui ont du sens. On va vendre, et on va bien vendre.
Ça on n'en sait rien, vous n'en savez rien.
Sinon on ne vendra pas.
Si vous avez des informations qu'on n'a pas,
c'est possible. Non, on ne lance pas l'appel d'offres tant que la procédure du RIP n'est pas terminée. Boris Vallot l'a dit. Aéroports de Paris, son cours de bourse a énormément monté depuis 10 ans. Et c'est le cas d'ailleurs de tous les aéroports de ce type dans le monde. Parce que Aéroports de Paris, ce ne sera pas le seul aéroport privatisé si on le privatise. Aujourd'hui en Europe, sur les 50 plus gros, il y en a la moitié dont l'État est totalement absent, plus 15-16% dont il est minoritaire. Donc c'est pas la première fois que ça se fait dans le monde. Aujourd'hui, on a un vrai sujet de performance d'ADP, il faut se le dire quand même.
C'est le
10e aéroport du monde en termes de trafic, il est classé 30e en termes de qualité de service. On a un vrai sujet d'investissement au niveau d'Aéroport de Paris.
C'est faux aussi.
On a un vrai sujet de... Bah,
c'est faux.
Je suis député des Français d'Amérique du Nord. Je peux vous dire qu'à Roissy, j'y vais beaucoup. J'ai été aussi dans d'autres aéroports dans le monde. On a un vrai sujet de performance opérationnelle. Rentrer en France par Aéroport de Paris, qui va être le hub de Air France, qui est l'entrée dans la région Île-de-France, qui est l'entrée dans Paris, dont on souhaite qu'elle soit de plus en plus attractif. Franchement, c'est pas fantastique.
Pour vous, c'est le privé qui peut développer l'aéroport, c'est ça ?
Non, faut pas être dogmatique.
Depuis 2014, dans le classement des aéroports, Aéroport de Paris a gagné 65 places. Il est aujourd'hui 30e. Il est d'ailleurs 9e sur les 30 premiers aéroports du monde. 9e sur les 30 premiers aéroports du monde en termes de fréquentation.
Les 10 premiers, il y a 3 européens, c'est Munich, Athènes et Bruxelles. D'ailleurs, les 3 sont privés.
Non. Ce que vous dites est faux.
Non, c'est faux.
Je vous donnerai les références dans une minute.
Ensuite, quand
vous prenez le dernier terminal qui a été créé à Roissy, c'est le 4e meilleur terminal du monde parce que c'est l'un des plus récents. Ensuite, on dit qu'il y a un problème de performance, de capacité à investir. L'année dernière, la capacité d'investissement d'ADP, c'était 1,8 milliard. Je souhaite à beaucoup d'entreprises d'être capables d'avoir une capacité d'autofinancement d'1,8 milliard.
Yeah.
Il est prévu qu'il soit investi dans les 5 prochaines années 6 milliards d'euros. C'est une entreprise qui est devenue le leader mondial en 2018 de la gestion d'aéroports. C'est une entreprise publique. C'est une entreprise publique. Ça ne veut pas dire forcément que c'est mal géré. Il ne veut pas dire qu'une entreprise privée soit forcément plus efficace.
Non, mais là, je suis pas dans le dogmatisme. Le privé est mieux que le privé.
Aucun argument.
On se retrouve aujourd'hui.
Il n'y a aucun argument qui plaide pour la privatisation.
On va essayer d'éviter de caricaturer. Il y a des arguments pour, il y a des arguments contre. Vous avez les autres, j'ai les miens.
Et on va repartir au standard de France Inter. Pierre-Antoine est au bout du fil et il patiente depuis une bonne dizaine de minutes. Bonsoir, Pierre-Antoine.
Oui, bonsoir. Merci de me donner la parole. Monsieur Vallaud, j'aimerais m'adresser à vous en premier lieu. Alors, à titre liminaire, j'aimerais vous remercier pour avoir déjoué les pronostics, il faut bien le dire, en contribuant à l'enclenchement de la procédure du RIP, qui était pourtant introduite dans notre droit pour ne jamais être enclenchée. Cependant, l'immaturité de cette procédure est évidente, en premier lieu, eu égard, et vous l'avez déjà dit, au manque de publicité offerte. Et j'aimerais ici le rappeler à monsieur Lescure, personne ne demande qu'il soit fait une propagande en défaveur de la privatisation de l'ADP, mais simplement une publicité suffisante pour que nos concitoyens soient au courant des procédures, ce qui est quand même la moindre des choses pour une procédure prévue par notre Constitution, je le rappelle. Alors, ce qui est certain, c'est que l'objectif majeur de ces prochaines semaines est de pallier ce déficit en multipliant les interventions, conférences et autres formes de communication, et c'est là que m'adresse à vous, monsieur Vallaud. Et en ce sens, j'ai une question et une proposition à vous faire. La première et la suivante, ne pensez-vous pas qu'il est indispensable pour conserver l'esprit de ce référendum, de travailler main dans la main avec l'ensemble des mouvances politiques avec lesquelles vous avez enclenché cette procédure? Parce que beaucoup de monde vous a reproché le caractère baroque de cette alliance. Je crois au contraire qu'elle est la chance de cette procédure, l'opportunité de forger un front républicain contre ces privatisations que beaucoup de nos concitoyens considèrent iniques. Alors le cas échéant, nous serions heureux avec le comité Antigone, groupe de jeunes chercheurs en droit et en économie, fermement opposé à la privatisation d'ADP, de vous accueillir à l'une de nos prochaines conférences organisées dans le monde universitaire.
Vous avez raison d'en profiter, Pierre-Antoine. Merci pour cette question, Maurice Vallaud.
Je vais commencer par accepter l'invitation avec plaisir. C'était compliqué de la refuser là directement à l'antenne quand même. Non, avec plaisir. Simplement pour dire, c'est un arc républicain qui s'est constitué. D'ailleurs, ça aurait dû interpeller le gouvernement qui a dit c'est une alliance baroque contre ma nature. Il faut quand même que le gouvernement ait en tête qu'au moment de la création d'Aéroport de Paris, par décret d'octobre 45, il y avait des gaullistes, il y avait des socialistes, il y avait des communistes. Qu'ils s'y retrouvent aujourd'hui parce qu'ils avaient un intérêt supérieur de la nation me paraît bien normal. Donc oui, cet arc républicain, il dit quelque chose du sérieux de l'affaire, et le tort de la majorité du gouvernement est d'être engoncé dans ses certitudes, dans une forme d'obstination aveugle, et de ne finir par écouter que lui-même. Ce que ça produit.
Une autre question, Boris Vallaud, qui nous vient de Paul. Celle-là, elle est peut-être moins sympa pour vous. Voilà. Mais pourquoi est-ce que les socialistes sont contre la privatisation alors que ça a été initié sous François Hollande? Et on rappelle que plusieurs aéroports ont été privatisés sous le précédent quinquennat.
Alors, la privatisation des aéroports de Paris a été refusée par François Hollande quand Emmanuel Macron lui en faisait la suggestion.
Il a quand même commencé à ouvrir le capital.
Rendons à César ce qui est à César. Dans la question qui est posée par Paul, il a raison de dire que il y a dans cet arc républicain des partis politiques qui ont pu de temps en temps nationaliser, d'autres fois privatiser, et qui là, en dépit de désaccords insurmontables sur d'autres sujets, se retrouvent pour dire au gouvernement vous êtes en train de commettre l'irrémédiable et il n'y a pas de marche arrière. Parce que dans 70 ans, aucun de nous n'aura de compte à rendre.
Roland Lescure, vous avez du retard un petit peu.
Oui, juste revenir sur la composition de cet arc un peu improbable. Les communistes, eux, ils sont ultra cohérents. Ils ont toujours été contre les privatisations. Ils le sont. Les républicains, ils sont totalement divisés. Donc il y en a une partie qui est pour, une partie qui est contre, une partie qu'on ne sait pas se prononcer.
Est tout à fait cohérent.
Voilà, Éric Woerth est contre.
Mais Gilles Carrez était déjà contre la privatisation.
On a un parti républicain.
Des autoroutes contre son propre camp.
Est-ce que je peux dire trois mots? Donc on a des républicains totalement divisés. Et alors le comble de l'incohérence, effectivement, c'est le Parti Socialiste. Qui, quand il est en majorité, systématiquement, sauf en 80, vous avez parlé de nationalisation, et vous avez raison, privatise plus que tout le monde. Et quand vous vous retrouvez dans l'opposition, vous opposez à toute privatisation. Il faut une certaine cohérence. Vous étiez vous-même aux affaires à Bercy et à l'Élysée qu'on a privatisé Nice, Lyon, Toulouse. D'ailleurs, certains d'entre eux avec beaucoup de succès, j'en profite pour vous féliciter, puisque Lyon vient d'être voté le meilleur aéroport de sa taille en Europe. Lyon, opéré par Vinci, en passant, est privatisé par vous. Bien, la privatisation...
Toulouse, Roland Lescure, un petit mot quand même. Hein. Ouais. Toulouse... C'est pas terrible. Hein.
Non, Toulouse, c'est
ça
pas terrible.
Mal,
alors attention,
même,
parce que quand vous demandez aux Toulousains, quand même, ils sont très contents, le trafic a augmenté de 27%, l'aéroport s'est amélioré dans son fonctionnement. Le vrai sujet de Toulouse, c'est qu'on n'a pas choisi le bon actionnaire. Et ça, la Cour des comptes a fait un rapport là-dessus très clair. D'ailleurs,
mais enfin, c'est embêtant quand même.
Non, mais effectivement, et on a appris, et pas seulement moi, dans ADP, mais aussi dans ce que vous avez fait sur Lyon et Nice, de ces erreurs. L'erreur monumentale qu'on a commise à Toulouse, qui, je le répète, et je le rappelle, pardon, est encore détenue à plus de 50% par les autorités publiques. Toulouse n'a pas été privatisée, mais on en a vendu une part minoritaire à un actionnaire chinois qui n'avait jamais géré un aéroport de sa vie. C'est pas ce qu'on a fait à Nice, c'est pas ce qu'on a fait à Lyon, c'est dans le cahier des charges d'ADP, c'est pas non plus ce qu'on fera dans ADP. On aura un opérateur qui sait gérer des aéroports, qui rentrera à ce capital si on va jusqu'au bout. Toulouse, c'était pas le cas.
Donc vous avez déjà une idée de qui ça va être?
Ah non, aucune idée. Il y a un processus très ouvert qui sera lancé. Quand il sera lancé, moi je n'ai aucune idée.
Je vous dis ça parce que par exemple Corinne Lepage, elle considère, elle estime que c'est peut-être un renvoi d'ascenseur pour Vinci, et vu que le projet de Notre-Dame-des-Landes n'a pas vu le jour.
Donc là, on est encore dans beaucoup de théories du complot qui ont fleuri autour de cette histoire.
Boris Vallot sur peut-être non, le...
Oui, pardon, peut-être juste pour finir là-dessus finissez, quand même. Oui. D'abord, le processus, on n'est pas dans une république bananière. Le processus de privatisation avant ADP, après ADP, il est extrêmement codifié. Extrêmement codifié, transparent, avec des conditions très précises qui font que vous ne pouvez pas vendre à Pierre, Paul ou Jacques sous prétexte que Pierre, Paul ou Jacques vous a fait ceci ou cela. Je voudrais quand même profiter juste une seconde. Attention au Vinci bashing. Vinci, c'est une entreprise française qui a 200 000 employés dans le monde, qu'on a 100 000 en France, qui a été extrêmement critiquée sur les autoroutes. Les autoroutes, l'État est seul responsable de la procédure absolument ridicule qui a été mise en place à l'époque. Il faut éviter le Vinci bashing, mais évidemment, il y aura plein de candidats à cette privatisation et on choisira, c'est pas moi, c'est pas le Parlement qui choisira, c'est l'exécutif, le ministre, le meilleur.
À condition que la procédure ne soit pas bloquée par un référendum, Boris Vallot.
On verra juste un mot. Vous savez, quand on n'a plus d'arguments, on dit la droite est divisée, la gauche a fait le contraire. Vous savez, moi, c'est la première fois, Roland, comme vous, que je suis député et que j'assume, moi, personnellement, les décisions politiques que je prends. Voilà. Et vous avez raison. En tout cas, j'espère que vous faites de même. Mais plutôt que d'être dans cette... Bon, ce tour de passe-passe habile, mais enfin...
Non, c'est une réalité. Assez, c'est assez, pas un tour de passe-passe, ça.
Vous devriez essayer de répondre, au fond, sur la raison pour laquelle il y a cet arc républicain qui se constitue. Parce que l'affaire est sérieuse et que ça, vous n'avez jamais voulu l'entendre. Et c'est aussi le symptôme d'un Parlement qui a été maltraité, parce qu'en réalité, c'est une sorte de monologue qui est très long, hein, parce que bon, ça parle beaucoup, mais ça n'entend jamais les propositions qui sont formulées par les oppositions. Et s'engoncer dans l'erreur, en général, on le paye assez cher. C'est que même quand on demande un rapport d'évaluation, on nous dit non.
Je peux donner un petit exemple des oppositions.
Qu'on reparte
Stéphane Peu, député communiste de Saint-Denis. On a adopté un amendement dans la loi Pacte pour préserver le statut des employés d'ADP. Si ça, c'est pas écouter les oppositions et répondre à un certain nombre de craintes légitimes autour de la privatisation d'ADP...
Essayez pas de mettre Stéphane Peu dans le camp des partisans de la privatisation.
Non, c'est pas ce que je dis.
Il en est l'adversaire.
Je dis que quand vous dites qu'on n'écoute pas les oppositions, c'est faux.
Temps mort, on part au standard. C'est Maurice qui est en ligne cette fois. Bonsoir Maurice.
Bonsoir, voilà, donc je voudrais faire une remarque qui est aussi une question. C'est justement comment, pour les citoyens, après poursuivre les gens qui sont responsables des privatisations au détriment donc du peuple français, c'est justement ces privatisations qui sont réservées à une petite élite, et donc comme on a pu le voir avec les autoroutes de Paris, enfin les autoroutes de France hein, qui ont été privatisées, on ne peut plus ensuite se libérer de ces contrats parce qu'il y a des pénalités financières. Donc c'est cette responsabilité des gens qui privatisent au détriment du peuple.
Merci Maurice, et je précise que vous n'êtes pas tout seul à poser ce genre de questions.
Il y a
Marie aussi qui dit depuis 30 ans les gouvernements successifs vendent ce qui rapporte et laissent aux contribuables ce qui coûte cher. Roland Lescure.
Non, alors on a là aussi appris des erreurs du passé. Dans la privatisation de l'ADP, il est prévu que tous les 5 ans, les tarifs seront renégociés et qu'en cas de désaccord entre l'État et le concessionnaire, c'est l'État qui aura le dernier mot. Aujourd'hui, sur les autoroutes, Vinci et les autres ont liberté totale pour augmenter les tarifs et l'État vient à genoux, à Canossa, demander, quémander, quel cobol quand les tarifs vont trop haut. Ce ne sera pas le cas dans ADP. Tout ça est très fortement contraint de manière à ce que ça n'arrive plus jamais ce qui s'est passé avec les autoroutes. C'est un scandale. Les concessionnaires n'y sont pas pour grand-chose. Les gens qui étaient aux commandes à l'époque le sont.
Boris Vallot.
Les contrats de régulation négociés tous les ans entre Aéroports de Paris et l'État, ce n'est pas une nouveauté. C'est déjà le cas. Le travail de l'Agence des participations de l'État, donc là, il n'y a pas de novation. Ensuite, sur le cahier des charges, honnêtement, un, il est très succinct, et deux, on n'en a pas eu vraiment connaissance, puisque les conditions dans lesquelles on l'a examiné ont été pour le moins rocambolesques. On avait demandé, il nous avait été promis le cahier des charges, on nous a dit, prenez sur votre temps de parole pour aller le consulter dans un obscur bureau de l'autre côté de l'Assemblée nationale. Et ça n'a pas été fait dans des conditions satisfaisantes.
Ça n'avait jamais été fait auparavant.
Ensuite, la réalité objective, cette entreprise rapporte, on emprunte à des taux d'intérêt négatifs, il va falloir indemniser les actionnaires au début et à la fin de la concession. C'est une entreprise stratégique, c'est une entreprise de souveraineté, un outil d'aménagement du territoire qui est au cœur de tous les grands projets d'aménagement de la région Île-de-France, et ça, ce ne sera pas régulé.
Moi, j'ai une question.
Si, bien sûr.
Ce
ne
sera pas régulé.
Bien sûr.
Peut-être en dehors du service public aéroportuaire.
Revenons peut-être un instant.
Mais attention, la souveraineté, la sécurité, la douane, la régulation, tout ça, ça reste, c'est même renforcé. Donc, il faut arrêter de mélanger les activités commerciales, les activités régaliennes. Celles-là, elles sont renforcées.
Je
ne
parle pas d'activité régalienne, je dis que c'est un outil de souveraineté, un outil d'aménagement du territoire, un outil de rayonnement
international. La maison du chocolat comme outil de souveraineté, vous passerez
mais vous voyez, c'est un mensonge. Mais
non, c'est vrai.
Vous allez faire vos courses là-bas. Vous allez faire vos courses là-bas.
Ben, il m'arrive de passer par Charles de Gaulle.
Alors, si les actionnaires, si les investisseurs pensent qu'ils vont acheter la maison du chocolat, il y a de quoi s'inquiéter pour l'aéroport de Paris.
Alors, permettez-moi maintenant de revenir un instant au référendum d'initiative partagée, puisque on en est à peu près un peu plus de 700 000 signatures. Il en faudrait 4,7 millions pour que la procédure puisse se poursuivre. Et ensuite, je voudrais quand même qu'on en dise un mot. Si jamais vous atteignez, Boris Vallot, avec ceux qui vous soutiennent, ces 4,7 millions signatures, il faudrait que les deux assemblées examinent votre proposition, ne l'examinent pas plutôt, ne la rejettent.
Ils n'examinent
pas. C'est bien compliqué là.
C'est-à-dire qu'il suffit que le gouvernement déclenche le référendum et ne le mette pas à l'ordre du jour de l'une ou l'autre des
on
assemblées.
On peut supposer que l'assemblée le mettra à l'ordre du jour, Roland Lescure.
Écoutez,
si jamais ça arrivait
jusque-là. On verra, mais ça montre, vous venez de le dire très bien, que cette procédure est extrêmement complexe et qu'il faut la simplifier. Mais attention.
Ça veut dire que votre seul espoir, pardon, Boris Vallot, quoi? Ce serait que le Sénat ne mette pas ça à l'ordre du jour?
Je vais jusqu'au bout du raisonnement
pour essayer de comprendre.
Ce sera au gouvernement de considérer ou pas qu'il faut faire échec au déclenchement du référendum. Parce que le processus de discussion et d'inscription au Parlement est essentiellement pour que le référendum n'ait pas lieu. Moi, je suggère que, à partir du moment où nous aurons atteint 1 million de signatures, le président de la République, comme il en a fait la suggestion et comme il le peut, déclenche le référendum.
Mais on voit tout le paradoxe de cette procédure qui a été votée en 2008. C'était une avancée parce qu'on introduisait de la démocratie directe, mais qui a été très mal construite. Vous imaginez si, après tous les débats parlementaires sur le mariage pour tous, 250 parlementaires avaient décidé de faire le coup politique que vous avez décidé de faire, de déclencher un RIP sur le mariage pour tous, mais où on en serait où aujourd'hui? Donc il faut faire très attention. Il faut simplifier la procédure, vous avez raison. Pour celle qui est en cours aujourd'hui, elle existe, on va suivre la loi, c'est 4,7 millions, c'est 4,7 millions. Et si on atteint, si vous atteignez 4,7 millions signatures, le gouvernement devra en tenir compte.
Il ne faut pas descendre à 1 million comme le réclame une partie de l'opposition, puisque ça correspond à ce qu'Emmanuel Macron souhaiterait pour la suite des événements.
Mais surtout que je ne doute pas.
Il faut simplifier la procédure.
Talent, vous arriverez à convaincre les Français.
Non, mais le sujet, ce n'est pas le talent de l'un ou de l'autre, c'est d'avoir des procédures qui ne mettent pas en concurrence.
On laisse terminer en concurrence
la démocratie parlementaire et la démocratie directe.
C'est bien l'intérêt du référendum d'initiative partagée.
Non. Ce n'est pas le peuple contre le Parlement, vous allez jouer avec le feu. On verra. C'est le peuple avec le Parlement. Aujourd'hui, on a un risque important de peuple contre le Parlement. C'est ce qu'on changera dans le cadre de la réforme qui resimplifiera le RIP, descendra sans doute à 1 million, mais évitera aussi qu'on se retrouve en concurrence.
Ça peut être un dialogue fructueux entre le Parlement et les citoyens. C'est ce qu'on lui propose. Et je dis aux électeurs et aux électrices, prenez la parole.
Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux d'être venus débattre ce soir sur France Inter, Roland Lescure et Boris Vallot. On aura certainement l'occasion de revenir sur ce sujet pour lequel on a eu beaucoup d'appels ce soir, beaucoup de questions. C'est la fin de ce Téléphone Sonne. Un grand merci à tous ceux qui nous ont appelés, à Irène Ménahem qui m'a aidé à préparer cette émission, à la réalisation Marion Lelay, à la technique Clément Vuillet, Tristan Gratalon, Julien Dumont. Merci aussi aux standardistes et à Amel Meyer qui a lu vos mails. Après les informations de 20h, Julia Foyce,
bonsoir
Julia.
Bon, alors ce soir, très très plaisir ce soir, on va parler séries télé. Vous aimez Claire les séries?
Je suis pas très série pour tout vous dire.
Alors là,
vous connaissant,
vous allez adorer parce que les personnages féminins ont gagné en force, en complexité, en jouissance et en violence aussi. On est très très loin de Sex and the City.
Merci beaucoup Julia Foyce et rendez-vous juste après les informations de 20h.